Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Oui !
Bonjour et bienvenue pour une nouvelle chronique coup de cœur des bibliothécaires. Aujourd'hui, Laurence va nous présenter un roman policier, Léa un jeu vidéo et Antonin un film. Quant à moi, je suis Kevin et je vais ouvrir le bal en vous parlant d'un manga. Bonne écoute!
Le livre, une source de savoir, une accumulation de signes chargés de sens... Un précieux héritage qui relie passé et futur. Protéger les livres, c'est protéger le monde.
Et c'est ainsi que débute Magus of the Library de Mitsu Izumi, ou le magicien de la bibliothèque en bon français. Un manga à mettre entre toutes les mains, peu importe l'âge, peu importe qu'on lise des mangas ou pas, peu importe sa confession de foi, ou bien ses préférences alimentaires. Il faut lire Magus of the Library. Voilà, c'était Kevin. Bonne journée à toutes et à tous. Je laisse la parole à... vous n'êtes pas convaincus. Bon, je vous pitche le début alors. On y suit le jeune Shio. Oui, Shio. Un enfant aux cheveux blonds, à la peau pâle et aux oreilles pointues. Mis à l'écart de son petit village de campagne car il ne ressemble pas aux autres humains. Tifa, la sœur de Shio, avec qui elle vit seule, travaille d'arrache-pied afin de pouvoir envoyer son petit frère à l'école. De fait, Shio sait lire, contrairement à beaucoup d'enfants, et même d'adultes, qui se mettent à travailler très jeunes. Il développe même un amour inconditionnel pour la lecture. C'est donc, tout naturellement, qu'il se met à fréquenter la bibliothèque. En cachette, car malheureusement, le responsable de la bibliothèque ne le laisse pas entrer à cause de sa différence et de sa pauvreté. À ne pas reproduire. Un jour, quatre envoyés de la majestueuse bibliothèque centrale de la ville quatre envoyés de la majestueuse bibliothèque centrale débarquent dans le petit village pour visiter la bibliothèque. Bon, ça se voit pas, mais j'ai fait des guillemets avec les doigts parce que c'est pas le réel objectif de leur voyage. C'est à leur rencontre que Shio va découvrir sa vocation et son pouvoir. Ah ah! Ça donne plus envie, là, hein ? Bon, je m'arrête pour ne pas trop divulgâcher. Forcément, en tant que bibliothécaire, comment ne pas adorer un manga dont l'intrigue principale tourne autour des livres et des bibliothèques ? Mais ce n'est pas la seule qualité de ce manga, et loin de là. Les personnages sont drôles et attachants, à l'instar de Shio. Tout autant que les antagonistes peuvent être classe et intrigants. Il y a de la magie, il y a des animaux fantastiques, il y a de l'aventure. Et alors que le monde de Magus of the Library est si féerique, avec son esthétique empruntée aux mille et une nuits, toutes les références à l'histoire de l'écriture, au rôle et à la fabrication des livres, ainsi qu'au métier de bibliothécaire sont très justes. Et cerise sur le gâteau, les dessins sont magnifiques, foisonnants de détails, tout en restant clairs et lisibles par tous et toutes. On comprend pourquoi c'est avec ce manga que l'éditeur Kiun a souhaité fêter ses 15 ans d'existence, Magus of the Library n'étant ni plus ni moins qu'un hommage aux livres et à leurs lecteurs. Il a rejoint Isabella Bird, dont vous parlait Sophie le mois dernier, au sein de la collection Kizuna, une collection grand public, universelle, avec des livres qui pourront passer sans risque de main en main au sein d'une même famille ou d'un groupe d'amis. Kizuna, c'est l'un des mots les plus importants de la langue japonaise. C'est le lien, la force d'attraction qui relie les gens et les choses entre eux. Voilà, cette fois-ci j'ai vraiment fini. C'était Magus of the Library, disponible à la médiathèque Camus. 4 tomes sont parus à ce jour. Je vous laisse en compagnie de Laurence avec justement un livre.
Merci Kevin et bonjour à tous, chers auditeurs de Radio B. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon coup de cœur pour Sombe, un polar écrit par Max Monnehet et édité en 2020 par les éditions du Seuil. Comme son prénom ne l'indique pas, l'auteur Max Monnehet est une jeune femme née à Beauvais en 1981. Après des études de lettres et un passage par les cours Florent, la jeune Max écrit plusieurs livres salués par la critique, parmi lesquels « Corpus Christine » et « Géographie de la bêtise ». Sombe, qui s'écrit S-O-M-B, est son quatrième roman et son premier polar. Pour planter le décor, je vous laisse prendre vos valises et me suivre en Charente-Maritime le temps d'une enquête pleine de suspense. Victor Caran, le narrateur de ce roman, est psychologue à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré. Son métier est difficile, mais il l'exerce avec le plus grand sérieux et beaucoup d'intuition. Cet homme si pas ordinaire, qui, on va vite le comprendre, se plonge dans la souffrance des autres pour étouffer la sienne et ensevelir le souvenir d'un drame familial dont il se sent coupable. Côté vie privée, Victor entretient une liaison passionnée et sincère avec Julia Sombe, la femme de Jonas Sombe, son meilleur ami depuis l'adolescence. Mais voilà, un matin, alors qu'elle sort de chez son amant, Julia est retrouvée assassinée à quelques mètres de chez lui. La police soupçonne vite le mari, puis l'amant. Le coup classique, d'autant qu'ils sont tous deux sans alibi, mais pas sans mobile. Au moment des faits, Julia était journaliste et elle ne comptait pas que des amis parmi les notables de la région. Quelques jours avant le drame, elle s'apprêtait à publier dans la presse un article sur une sombre affaire de corruption et de mœurs dans lequel trompait un élu. Alors, hasard ou nouvelle piste dans cette histoire qui aime piéger le lecteur? Je ne vais bien sûr pas vous donner la réponse ni vous en dire plus et j'espère même que vous serez tenté par la lecture de ce roman au final impensable. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce polar qui m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière page. C'est un thriller haletant, avec du rythme, de nombreux rebondissements et qui n'est pas sanguinolent. L'auteur a su créer une ambiance hivernale et s'entourisse dans la ville de La Rochelle et l'île de Ré, qui colle bien à l'histoire. Elle décrit aussi de façon très réaliste la vie des détenus en milieu carcéral et leur difficile réinsertion sociale. L'écriture est fluide, les dialogues toniques avec une pointe d'humour et les personnages tourmentés à souhait mais attachants. Sombe, c'est enfin et surtout un roman qui explore en profondeur l'amitié masculine, les traumatismes d'enfance et le sentiment de culpabilité. Si vous voulez à votre tour découvrir le style de Max Monnehet et savoir qui est responsable de la mort de Julia, je vous invite à venir emprunter Sombe, disponible au rayon Polar de la médiathèque Camus. Chers auditeurs de Radio B, je vous laisse à présent en bonne compagnie avec Léa pour son coup de cœur de jeux vidéo et je vous souhaite une belle journée.
Est-ce que vous aimez les films d'horreur? De ceux qui s'amusent à vous faire sursauter avec un coup de violon bien placé au moment où un monstre sort de nulle part? Vous imaginez ne plus seulement regarder les personnages évoluer dans cette ambiance, mais en plus les influencer? Que la réponse soit oui ou non, soyez prêts. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de Little Hope, deuxième opus de la Dark Pictures Anthology, développé par Supremacive Games. Alors avant de commencer, note à moi-même, arrêtez de choisir de parler de jeux dont le titre est en anglais, je me ridiculise à chaque fois. Bref, entrons dans le vif du sujet. Suite à un accident de bus, un groupe d'étudiants et leurs professeurs pénètrent au milieu de la nuit, parce que sinon c'est pas drôle, dans une charmante bourgade qui porte le doux nom de Little Hope. Little Hope qui veut littéralement dire petit espoir, mais ne vous y trompez pas, en fait ça signifie peu d'espoir. Grosse ambiance! Car voyez-vous, après seulement quelques minutes de jeu, vous allez vite comprendre que les habitants de Little Hope ne sont pas les personnages les plus sereins et les plus rassurants du monde vidéoludique. Il faut dire que la ville a un passif un tout petit peu trouble avec les sorcières, tout ça. Bon, je crois que vous avez saisi l'idée, ça fait flipper. Venons-en au gameplay. Ce jeu s'inscrit dans la pure tradition de l'aventure narrative. Le joueur incarne différents personnages et prend des décisions pour lui. Choisir d'aller observer tel ou tel endroit, décider de répondre de telle ou telle manière à un autre personnage, etc. Le fait que certaines décisions doivent être prises rapidement ajoutées à l'ambiance déjà bien tendue du jeu, je vous laisse imaginer l'état du rythme cardiaque du joueur. L'originalité à souligner pour ce jeu, c'est son option multijoueur. J'ai testé la version locale, je ne me prononcerai pas sur la version en ligne, mais sachez qu'il est possible de jouer à deux à distance si chacun possède le jeu. Je vais donc vous parler du mode qu'ils appellent soirée télé. De 2 à 5 joueurs, on se répartit les personnages et on joue chacun son tour. C'est très sympa, surtout dans cette ambiance horrifique. Même quand on joue pas, on est sous tension, à fond dans l'histoire, quitte à avoir tendance à vouloir influencer celui qui joue. Le jeu dévoile alors un vrai intérêt, puisque chaque personnage du jeu est incarné par un joueur différent, avec un caractère différent et donc des décisions différentes. Ça permet d'avoir un groupe de personnages plus hétérogène que s'ils étaient tous joués par la même personne. Je voulais aussi m'arrêter sur l'aspect visuel et sonore du jeu, puisque pour moi, ça a une importance particulière pour ce type de jeu narratif. Alors d'abord, les doublages. J'ai fait le jeu en français. Il y a Team VO, Team VF, hein, désolé. J'étais bluffée par le casting des voix. Il y a Benoît Hallemann, qui est le doubleur entre mille autres de Morgan Freeman, Jean-Philippe Puymartin, qui double notamment Tom Hanks, hein, excusez-moi, et Dorothée Pousseau, que ma génération connaît pour avoir doublé Ashley Olsen, mais qui double aussi, par exemple, Margot Robbie et plein d'autres. Je m'arrête là, mais vous allez passer votre temps à dire « Ah, mais je la connais, cette voix !» Et c'est vraiment très agréable d'avoir un doublage aussi qualitatif dans ce genre de jeu. Pour ce qui est du côté visuel, je suis plus partagée. Les paysages sont très beaux, la lumière est géniale. Mais alors les mouvements des personnages, mais bon sang, mais quelle déception ! Le jeu est réalisé en motion capture. On s'attendait donc à des graphismes réussis, à beaucoup de fluidité. Mais pas du tout. Tout le monde est rigide. La synchronisation labiale, j'ai même pas envie d'en parler. En VF, elle est complètement ratée. J'aurais pardonné à un jeu plus ancien, mais Little Hope est sorti fin 2020. La technologie est beaucoup trop avancée pour que j'accepte de voir un visage impassible sur mon personnage qui est censé être terrifié. Bon, je m'arrête là-dessus parce que ça m'a vraiment déçu, mais faut être honnête, ça gâche pas non plus complètement l'expérience de jeu. Le principe de base, il me semble, c'est quand même de se dire qu'on participe à un film d'horreur. Et de ce point de vue-là, c'est réussi. La flippette que je suis a fait plusieurs bonds sur son canapé. D'ailleurs, je m'excuse ici auprès de Poulette, mon très cher chat, qui a fait 2 vols planés pendant que je jouais. Poulette. Pardon. L'ambiance du jeu vient par faire les choses. Et pour être Tatiane, je dirais même qu'ils essayent un poil trop de nous faire sursauter. Mais bon, ça a beaucoup trop bien marché sur moi pour que je critique vraiment. Donc, pour conclure, je dirais que ce jeu est parfait pour une soirée entre amis. On attend la nuit, on éteint les lumières et on se lance dans ce monde horrifique comme on regarderait un film d'horreur pendant une soirée pyjama. Ça s'y prête vraiment et je pense qu'il est vraiment fait pour ça. Il faut environ 4 heures pour le terminer. Et essayer de ne pas tuer son personnage aussi, accessoirement. Vous pourrez trouver ce jeu pour PS4 à la médiathèque Camus. Attention à vous ! Pardon, excusez-moi, c'est juste Antonin qui arrive pour vous parler d'un film.
Ah, ça va Léa, je suis pas peigné, mais je suis pas si peur que ça quand même. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que vous aussi l'envol de ce héros des temps modernes, d'un nouveau genre qu'est Thomas Pesquet, vous a un peu envoyé dans les étoiles ? Couvert par le média comme il a été, cet événement ne vous a sûrement pas échappé. Personnellement, j'ai ressenti ça comme s'il nous emmenait un petit peu avec lui dans ses valises. Et pour prolonger un peu ce moment, la tête dans les pulsars, je vais vous parler d'un film qui colle au parcours de notre super français volant. En effet, c'est sur les pas d'une astronaute que je vous emmène avec le long-métrage Proxima d'Alice Winocourt. C'est un peu le parcours du précédent voyage de Pesquet que nous retraçons. Nous suivons Sarah, une brillante astronaute qui a été choisie pour une mission dans l'espace d'un an. Elle commence alors, sous nos humbles yeux de spectateurs, son entraînement pour l'envol avec la capsule Soyouz. Pas de science-fiction ici, on plonge dans le réel. On suit pas à pas la préparation plus que militaire de notre future voyageuse de l'espace. Et c'est du haut niveau. Très travaillé, très bien filmé et joué par une Eva Green qui crève l'écran, on vit avec eux leurs épreuves tant physiquement que psychiquement, que moralement, car le sujet, le grain du film se situe ici. Le moral. Oui, ce sont tous des Superman, mais voilà, notre astronaute, Wonder Woman du coup, est maman d'une petite fille de 8 ans. Là voilà sa faiblesse. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de jugement ici contre les têtes blondes. Mais voilà, pour Sarah, dans son parcours, sa préparation qui doit être un sans faute, c'est un vrai sujet de conflit interne potentiellement dangereux pour la mission. Sa place de maman, le rapport mère-fille, la notion d'abandon, la place du père par rapport à sa fille et dans leur couple, tout est profondément questionné et décortiqué. Oui, on est autant dans une course à l'étoile que dans un drame familial. Une étrange alchimie qui peut sembler assez hétérogène, mais qui est admirablement menée par notre réalisatrice. Le jeu des acteurs, des actrices et la pression qu'impose le scénario sur la préparation minutée à l'extrême avant le décollage. Voilà donc un parti pris très intelligent et réussi de présenter ce challenge presque mécanique froid en nous frappant brillamment avec l'humanité trop absente de ce monde beaucoup trop misogyne, dévoilant les hommes et les femmes derrière les combinaisons rutilantes de l'astronaute. Nous voilà donc prêts pour le décollage. Attachez vos ceintures, attendez le compte à rebours. D'ailleurs, profitez-en pour régler tous vos problèmes familiaux comme notre héroïne en un temps record en 10 secondes, paf, pouf. Et ouvrez grand les yeux. À retrouver donc Proxima d'Alice Winocourt dans le courant du mois de juin dans les rayons de la médiathèque Vaillant. Et nous voilà au bout de ces chroniques. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous vous retrouverons avec le plus grand plaisir dans un petit mois pour plein de nouvelles perles. D'ici là, faites vite main basse sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et bonne journée à tous! Tu t'ennuies ?
Tu sais pas quoi faire.
T'as qu'à écouter les super chroniques des bibliothécaires
de Bourg-en-Bresse.
C'est un mercredi par mois
à 7h30, 8h30 et 12h30.
Sur Radio B, bien sûr.
Bon, tu nous as ratés ?
Pense au podcast.
Wouhou !